Les pieds sur terre, quartier d'été.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Quand il sera grand, mon fils veut devenir goûteur ou testeur de saucissons. Il pense que parce qu'il aime beaucoup le saucisson, il pourrait en manger toute la journée et en faire son métier. Il y a sûrement une demande dans ce sens. Après tout, il faut bien des contrôleurs de qualité, y compris le saucisson. Mais il n'est pas sûr que ce soit un métier de rêve. J'essaie donc de le dissuader. De la même façon, ce n'est pas parce qu'on aime aller au cinéma qu'il faut devenir critique de film ou réalisateur. Les garçons que nous rencontrons aujourd'hui, eux pourtant, sont allés jusqu'au bout et ont transformé leur divertissement en travail. Ils sont joueurs de jeux vidéo professionnels, comme des joueurs de football professionnels, des joueurs d'échecs, de banjo ou de Scrabble professionnels. Ils ont une vingtaine d'années, ils jouent à un jeu vidéo qui s'appelle Call of Duty. Plus précisément, ils jouent à Call of Duty Black Ops 3, un jeu de guerre, sans doute un des jeux les plus connus et vendus au monde. Le décor que les joueurs appellent un monde et qui ressemble à un grand dessin animé un peu fantastique se situe en 2065, à une époque où ça va pas fort. Il y a des nouveaux soldats qui s'appellent les Black Ops et qui se battent au sol. Dans la version d'avant, je suppose dans Black Ops 2, il y avait beaucoup d'attaques de drones, mais elles sont devenues ringardes, enfin anéanties par un énorme système anti-drone. Donc retour aux bases, dans les tranchées. Ce qui est intéressant apparemment, l'aspect un peu philosophique disons, c'est qu'à l'époque décrite, il est devenu difficile de faire la différence entre l'humanité et la technologie qu'elle a créée. Il y a donc une réflexion sur les limites de la technologie. Il y a aussi une thématique sur le réchauffement de la planète, un enjeu dans le jeu autour du contrôle des eaux du Nil, une coalition internationale, mais enfin ce n'est pas non plus le monde diplomatique. Il y a des morts vivants, des zombies, des immortels, et selon le site Wikipédia, qui est le maximum de ce que je peux comprendre là-dessus, la grande nouveauté de cet opus de Call of Duty, ce sont les spécialistes. Il y en a 9, ils ont chacun une arme et une capacité, et chaque joueur qui possède un spécialiste se voit développer une arme et une aptitude ou une aptitude spéciale. Le 11 novembre 2015, le développeur de ce jeu a annoncé que ses ventes avaient atteint plus de 550 millions de dollars durant les 72 heures qui ont suivi son lancement. À cette date toujours, les fans avaient cumulé plus de 75 millions d'heures de jeu en ligne sur donc cette même période de 72 heures. Parmi ceux-là, quelques stars donc, très peu en France, qui en ont fait un job et qui gagnent ainsi leur vie. Mais comment, combien, où et quand, c'est ce qu'Adila Benedjaizou est allé leur demander avec une idée très personnelle derrière la tête.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Bonjour. Je suis Adila.
Enchantée.
Il y a un groupe. Dame. Bonjour. Bonjour. Ah, mais fallait pas faire le ménage pour moi.
Je ne sais pas si vous jouez à des jeux vidéo, mais moi oui. Énormément. Comme je travaille pendant la journée, je joue surtout la nuit, pendant des heures.
Non !
J'ai fait un rapide calcul et je pense jouer environ 1600 heures par an. Ça veut dire que j'y passe autant de temps que si j'étais en contrat 35 heures.
Oh là 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 là, ferme les qualités.
Forcément, j'ai souvent pensé que si on m'avait payé pour chaque heure que j'ai passée à jouer, j'aurais amassé une petite fortune. Alors quand j'ai entendu parler de gens qui étaient payés pour jouer à des jeux vidéo, j'ai décidé d'aller voir à quoi ça ressemblait.
Ça va ? Et vous ? Adila ?
Broken, Riskin et Whalers sont de jeunes champions de e-sport. Ils font partie de la même équipe et sont installés dans une gaming house, un appartement où ils s'entraînent, dorment et vivent ensemble.
C'est super beau et en plus c'est dans un quartier chic.
Ouais.
Ouais, après, c'est notre structure qui nous paye ça. C'est justement pour qu'on puisse s'entraîner dans de bonnes conditions et voilà, qu'on puisse être dans les meilleures conditions possibles pour être le plus fort.
Je m'attendais à trouver des types qui ne se nourrissent que de soupe chinoise et font pipi dans des bouteilles en plastique. J'avais tort. La gaming house que je visite est un appartement chic et anonyme près des Champs-Élysées.
Voilà ma chambre. Bon, c'est pas rangé parce que voilà, je suis un mec.
Elle est immense.
Ouais, j'ai pris la plus grande chambre parce que je suis le capitaine. Je rigole. Non, c'est on s'en fiche en fait, on l'a choisi au hasard. Le salon qui est assez grand.
Moulure, parquet rutilant et meubles cossus.
On va pas se plaindre.
La seule chose qui détonne dans le salon, ce sont les trois ordinateurs et les multiples écrans.
Dans l'appartement, on a tous un PC portable. PC portable de gamer, assez puissant, qui coûte assez cher, qui nous permet de streamer et diffuser nos parties en ligne en même temps que jouer. Donc il faut un ordinateur qui demande beaucoup de puissance et une bonne connexion. Ces ordinateurs qui tournent aux alentours de, je dirais, entre 2000 euros et 4000 euros. Et on a chacun notre PC, donc on a trois PC. Et on a un nouvel arrivage de PC qui va pas tarder. Début de la semaine prochaine, donc on aura 6 PC, quoi, 2 PC chacun. Voilà, c'est toujours un plaisir, quoi. C'est grâce aux sponsors qu'on remerciera jamais assez, qui nous aident beaucoup. Et voilà. Ben, ils nous donnent du matériel, et un peu comme les équipes de football, quoi. Ouais. Et les sponsors, nous, on n'est pas vraiment impliqués dans ça. On fait juste, on essaie de faire notre job, de gagner des matchs, et voilà.
Les sponsors, qu'on ne remerciera jamais assez, ça permet de financer du matériel, mais ça ne donne pas un salaire. Je ne sais toujours pas comment on gagne sa vie en jouant. Il joue à quoi ?
Il joue à Call of Duty. Black Ops 3, le dernier.
En train de
jouer en même temps.
Il y a des gens qui le regardent pendant qu'il joue.
Il doit avoir 1200 personnes, je pense.
1200 personnes, là ?
Ouais, je pense, à peu près. Donc je rappelle qu'il a le rendu en fait de ce qu'il est en train d'envoyer sur internet. Et en même temps, il voit à droite le chat, donc c'est les personnes qui interagissent avec lui directement via le chat en fait.
Non. En tout cas, moi ça va rien.
Mais là, il joue, en même temps il parle et en même temps il chat.
Voilà, c'est ça. En fait, là, il est avec des coéquipiers. En même temps, il diffuse sur internet sa partie.
Je me tape maison.
Et donc. Voilà.
Je prends le corps encore, lui, vas-y, rocheux, à droite. Nice!
Let's go!
Wailers, le plus jeune de l'équipe, et aussi le plus passionné, à 18 ans.
Seconde map.
Il joue même en dehors des heures d'entraînement.
Je m'appelle Wailers, dans le jeu et dans la vie aussi. Mon père était un fan de Bob Marley, du coup, il m'appelait Wailers comme leur groupe de musiciens.
J'essaye de comprendre ce que c'est que le stream et comment ça rapporte de l'argent.
Donc là, on est sur la plateforme Twitch où vous faites...
Des streams.
C'est-à-dire ?
Je diffuse mes parties en direct.
Et ça vous permet de gagner de l'argent ?
C'est ça.
Comment ?
En diffusant des pubs et puis les personnes peuvent s'abonner à ma chaîne. Du coup, j'ai un tableau de bord et je peux diffuser des pubs toutes les 8 minutes. Et du coup, je peux faire la durée de la pub, etc.
Et vous gagnez combien ?
C'est 3,50 les 1000 vues. Plus t'as de gens, forcément, plus t'as plus de vues, t'as plus de pubs.
Et vous le faites, vous, avec quelle fréquence ?
Je fais à peu près toutes les 15-20 minutes. Dès que je suis entre les parties, si je fais rien du tout, autant je lance une pub et voilà.
Mais quand vous êtes entre les parties, les gens, ils ne déconnectent pas ?
Non, pas du tout. Du coup, ils regardent la pub et ils reviennent.
Alors, montrez-moi, là, il y a un tableau.
J'ai fait ça cet après-midi, en fait.
Ça, c'est vos revenus de cet après-midi. C'est-à-dire, alors, expliquez-moi sur ce tableau. On voit d'abord revenu total, $88.67, c'est ça ?
C'est ça. Donc, j'ai fait ça à peu près en 3 heures, j'ai fait ça. Donc, j'ai fait 103 heures d'abonnement et 25 heures de pub.
Et donc, vous pouvez faire ça tous les jours, si vous voulez.
Tous les jours, tous les jours.
$88 par jour. C'est pas mal. Mais ce n'est pas encore le revenu de Zlatan Ibrahimovic. Je me rabats sur Reskin pour en savoir plus.
Alors, dans une équipe professionnelle, on est 4. Et oui, on a chacun un rôle. Donc, il y a une personne qui s'occupe de l'encre. Ce qu'on appelle l'encre, c'est celui qui joue très reculé, qui s'occupe de regarder les lignes, etc. Il y a mon rôle, l'objectif. Donc, moi, je m'occupe d'aller dans les points, de mettre un plus de points possible niveau équipe. Et ensuite, il y a deux slayers, ce qu'on appelle slayers, c'est deux personnes qui vont faire beaucoup, beaucoup de kills. Ils vont s'occuper de laver la carte et essayer de faire en sorte que moi, je sois bien dans le point, que j'ai rien besoin de faire et que l'autre personne qui est au fond n'ait rien besoin de faire aussi. Alors, dans le jeu, il y a trois modes différents. Donc, il y a le hardpoint. Ce qu'on appelle le hardpoint, c'est des points qui tournent sur la carte. Et en gros, il faut aller dedans et chaque seconde dans le point égale un point pour l'équipe et il faut arriver à 250. Ensuite on a un deuxième mode qui s'appelle la SND, la recherche et destruction. Donc c'est un mode où il faut poser la bombe et essayer de pas mourir et de faire en sorte que la bombe explose, ou alors tuer toute l'équipe adverse. Il y a qu'une seule vie par manche. Après on a de l'uplink aussi, c'est une sorte de basket entre guillemets. Il y a une boule au milieu de la carte, il faut essayer de la récupérer et l'envoyer dans les cages du camp adverse en fait. En général moi je vais être plutôt celui qui a le moins de kills, le plus de morts, mais par contre je vais avoir beaucoup plus de temps dans le point. Il faut avoir des gros réflexes parce que c'est souvent c'est pas des duels à longue distance, c'est vraiment du corps à corps, donc il faut avoir des réflexes dès qu'on voit quelqu'un, il faut essayer de le tuer le plus vite possible. Il faut être précis quand on prend la balle et en uplink et qu'on essaie de la lancer dans le camp adverse. Il faut être très rigoureux et pas avoir peur de mourir dans le jeu, quoi, parce que vraiment il faut avoir l'esprit d'équipe et pas avoir peur de se donner pour l'équipe. Ça fait que je joue à Call of Duty, ça fait 7 ou 8 ans. Ça fait depuis que j'ai 12-13 ans. Alors j'ai découvert le jeu à la base, pas Call of Duty, mais avant. Je jouais déjà avant avec ma sœur ou mon père qui me montrait déjà un petit peu les jeux vidéo en général. Ma sœur était vraiment fan des Zelda et à chaque fois je la regardais jouer et genre je trouvais ça super cool. Et au début j'avais pas le droit de jouer parce que j'étais vraiment trop petit. Mon père, lui, jouait plus à des jeux comme Duke Nukem, c'est un jeu qui est super vieux. C'est quasiment le précurseur des FPS, ce qu'on appelle FPS, c'est les first person shooters. C'est-à-dire comme Call of Duty, où on voit l'arme en première personne, comme quand on est dans la peau de la personne, en fait. Et j'adorais ce genre de jeu. Et à chaque fois que j'y jouais, bon, j'étais vraiment petit, donc ça me faisait peur, donc genre j'y jouais pas trop. Mais j'adorais le regarder jouer, en tout cas, ouais. À la base, quand j'ai commencé à jouer à Call of Duty, j'adorais la compétition en général, donc je voulais juste être le meilleur dans le jeu, et petit à petit je me suis rendu compte qu'on pouvait faire des tournois et qu'on pouvait gagner pas mal d'argent avec ça, donc je me suis lancé à fond dedans, quoi. Je suis arrivé début janvier, et voilà, depuis je vis avec mes deux coéquipiers dans un appartement. Donc Gaming House, c'est une maison où genre on peut tous jouer, tous communiquer plus facilement. Après, oui, ça change de ma vie quand je suis chez moi, parce que c'est vraiment d'écran à écran, qu'ici, c'est vraiment de la vie réelle, on est vraiment avec les coéquipiers, c'est comme des super potes ou limite des frères, donc voilà, ça change complètement, quoi. Notre travail, c'est limite notre vie, hein. Faut pas se mentir, hein. On est là, on joue très souvent, même quand on joue pas en équipe, on essaie de jouer tout seul pour améliorer le niveau individuel. Il y a beaucoup de sacrifices à faire, même au niveau de la famille. Il y a un petit peu de stress et en même temps l'envie de bien faire, l'envie de gagner. Dès qu'il y a de la compétition, je pense que tous les gens qui ont envie de gagner dans n'importe quel sport, je pense qu'ils ressentent exactement la même chose que nous. C'est pour ça que moi je considère ça comme un réel sport, même si c'est pas physique, c'est vraiment un sport mental comme les échecs ou voilà. Il faut vraiment rester concentré tout le temps et s'il y a juste un moment où on n'est pas concentré, la game elle nous échappe des mains.
Vous avez déjà vu des gens craquer sous la pression ?
Oui, beaucoup. Des gens qui soient pleurés parce qu'ils ont perdu une partie. Comme moi, par exemple, j'avais perdu une partie qui était très importante à une époque. C'était à Londres, c'était pour me qualifier à Los Angeles. Et j'avais perdu ce match et genre j'étais complètement effondré, j'étais complètement dégoûté. On avait joué contre Vitality, moi j'étais chez Millennium. Et on avait perdu 3-0 et voilà, on n'avait pas réussi à faire la différence sur ce match. Ils étaient meilleurs que nous et voilà, c'était vraiment un jour sans pour nous. Et eux, c'était un jour avec, ils avaient vraiment l'envie de gagner, ça s'est senti sur le match, et voilà, après quand c'est fini, bah c'est trop tard, quoi. On se rend compte que c'est fini. Trop tard.
France Culture, les pieds sur terre.
Je pinche. 2, 2, 2, 3, 3, 2. Encore.
Call of Duty, c'est un jeu qui est vraiment très mental, c'est-à-dire que si quand tu rentres dans l'émotion sur ce jeu, tu perds tous tes moyens, tu peux plus tuer personne et voilà, t'es juste un fardeau pour ton équipe et faut essayer de faire le vide et voilà, se donner à fond quoi.
Reviens.
En fait, les champions d'e-sport pensent et parlent comme des sportifs de haut niveau. Ils n'aiment pas parler d'argent. Je décide de monter dans la hiérarchie et de m'adresser au capitaine de l'équipe, Broken.
Putain, je suis mort, let's go.
C'est un vieux, il a 24 ans.
Alors, il y a le Disney Game, et voilà, c'est mon rôle. C'est ce que je fais, je suis un peu celui qui ramène aussi, comme on dit en anglais, la hype. C'est celui qui va donner du peps à l'équipe. Par exemple, je vais crier « Let's go, vous êtes les meilleurs, continuez comme ça ». Voilà, des trucs qui vont les forcer à se pousser, à pousser leur niveau encore plus haut. J'essaie de faire en sorte qu'ils soient en extase quand ils jouent, qu'ils se trouvent extraordinaires. Et en général, ça marche plutôt bien. Je m'appelle Kevin George, aka Broken dans le monde du jeu vidéo. J'ai un B sur les deux épaules et un B dans le haut du dos. C'est mes initiales, c'est Broken, Brocky Brooks. C'est mes initiales de jeu. J'ai voulu me faire ce tatouage. Après, j'ai une tête de lion dans un triangle, parce que j'aime bien le lion, c'est l'animal, voilà, c'est le roi, c'est celui qui domine. Je préfère être le numéro un, le king, dominé. Personnellement, quand je parle à des gens et je leur dis ce que je fais, ils me croient pas. En général, il y a beaucoup qui me croient pas. Quand je leur dis que je suis un gamer, ils me disent non, c'est pas possible, arrête de mentir, soit tu fais du basket, soit tu fais de la danse ou quelque chose comme ça, mais non, je fais pas mal de musculation. C'est de faire 1000 pompes par jour déjà pour maintenir la forme parce que je trouve que c'est important d'être en forme même pour jouer aux jeux vidéo. Je suis un membre fondateur de l'équipe, donc je suis sous contrat chez l'équipe Vitality. C'est un peu différent du contrat de travail habituel vu que on n'est pas encore connu en tant que joueur professionnel comme les sportifs. Je suis en tant qu'entrepreneur en fait. Et chez Vitality, je suis à 2000 € par mois. Après, les sponsors, c'est vraiment parce qu'en fait, on stream. Mais en général, plus t'es un gros streamer, plus t'as des gros contrats. Ça dépend aussi du nombre de subs que tu fais, c'est-à-dire les gens qui s'abonnent à ta chaîne. Et en fait, ils te versent 5 € par mois. Après, ça dépend encore entre toi et le sponsor, combien tu touches des 5 €. C'est plein de trucs comme ça. Mais en général, un bon joueur professionnel peut très facilement faire 10 000 € en un mois, quoi. C'est très facile de se faire 10 000 €, c'est quand t'as un très bon niveau, quoi.
Et un très bon niveau, ça concerne combien de joueurs à peu près ?
Un très bon niveau, déjà, faut réussir à avoir 4 très bons niveaux dans une équipe. Et ça, c'est vraiment très compliqué. En France, actuellement, ceux qui peuvent se faire de revenus, il y a 2 équipes, il y a la nôtre. Et l'équipe LDLC, on est 8 à pouvoir se faire de très bons revenus, je pense. Donc, tout d'abord, j'ai commencé... j'ai commencé le jeu vidéo, enfin les FPS, déjà, c'était pas trop ma tasse de thé à l'époque. J'étais plus sur les jeux de sport. J'étais plutôt un mauvais perdant, donc sur les jeux de sport, j'étais vraiment très calé. J'ai battu tout le monde. Je jouais souvent avec mon meilleur pote, je le battais souvent. Il me mettait sur Call of Duty. Et puis, comme j'aimais pas les jeux de tir, il me battait à chaque fois. Mais comme j'aimais pas perdre, j'ai fait que m'entraîner. Puis, j'ai vu que, voilà, je commençais à prendre du plaisir. J'aimais vraiment ce genre de jeu. Donc, j'ai commencé à m'impliquer pour de vrai. J'ai eu la 360 pour Noël. Puis, j'ai su qu'il y avait des ladders en ligne où on pouvait faire des matchs contre des autres mecs. C'est parti de là. Puis, des tournois en LAN, enfin, des LAN, comme on appelle. Des tournois en face des adversaires. Donc, j'ai fait une équipe avec des potes à la base. On y allait sans vraiment savoir ce qui allait se passer. J'étais avec mon meilleur pote. Lui et moi, on était vraiment des têtes de cons. On pensait que les gens nous sous-estimaient et nous, on savait ce qu'on valait vraiment.
Vous vous souvenez de la partie qui vous a rendu le plus heureux ?
J'avais 17, entre 17 et 18 ans, je crois, quelque chose comme ça. Le tournoi avait très mal commencé, c'est-à-dire qu'on est arrivé au tournoi, on n'avait pas beaucoup d'argent, et la personne de notre structure qui devait nous book l'hôtel, au lieu de nous book un hôtel à Amsterdam, elle nous avait book un hôtel en Bulgarie. Nous, on rentre dans un taxi, et on dit au chauffeur de taxi, on lui donne l'adresse, et le taxi lui dit... Par contre, je veux bien vous emmener ici, mais je veux du cash. Il nous a fait, oui, je vous l'ai fait pour 5 000 la course. J'ai dit, comment ça ? Il m'a dit, ouais, pour 5 000, parce que là, la course, elle est en Bulgarie, là. J'ai fait, oh non, c'est pas possible. Et finalement, on savait pas quoi faire, vu qu'il y avait personne avec nous, on n'avait pas assez d'argent pour se prendre une chambre d'hôtel. Et puis, à cette époque-là, il faisait très, très froid, il neigeait vraiment beaucoup là-bas, il y avait genre 7 cm de neige par terre. Je me rappelle de Diablo qui était déjà en train d'enfiler. Lui, il se voyait déjà dormir dehors. Donc, il avait enfilé tous ses habits de sa valise. Il avait tout mis sur lui. Il avait vraiment tout mis sur lui. Il avait genre 4 pulls, 3 pantalons. Je lui ai dit, mais t'inquiète, on va pas dormir dehors. Il a dit, si, mais je le vois venir, on va venir dormir dehors. Donc, il commençait déjà à chercher un endroit paisible où dormir. Mais il voulait toujours remporter le tournoi. Donc, c'était quand même exceptionnel. Et finalement, on a eu une chambre d'hôtel. Et c'était une histoire qui a très mal commencé pour bien finir, quoi. On était à plus qu'à une manche de gagner le tournoi européen. Et c'était la première fois que, voilà, qu'on allait aussi, j'allais aussi loin dans un tournoi. Et avec Diablo, Carnage et moi, on était encore en vie et j'étais en train de leur dire dans le micro, les mecs, vous êtes au courant que si on tue le dernier, on est champion d'Europe. Et voilà, et le mec en face avait genre 30 secondes pour tuer nous trois et poser la bombe. Et on faisait des théories en plein de parties, on était en train de dire, mais non, mais vous pensez qu'il a le temps de tuer nous trois? Et de poser la bombe, ah non, c'est pas possible. Et voilà, c'était quelque chose d'assez fort. Et finalement, on l'a tué. Et puis, j'ai pris Samir dans mes bras. Ça me faisait vraiment plaisir. C'était vraiment quelque chose que je voulais accomplir. Et c'était vraiment énorme de réussir à choper des titres. C'est quelque chose d'exceptionnel. C'est quelque chose qu'on se souviendra tout le temps, quoi. Et puis, ouais, on l'a fêté. Bon, on était assez jeunes, donc on n'a pas bu. Et puis, voilà. C'est parti d'ici, à partir de là, je suis devenu professionnel et on peut dire un peu, voilà, j'ai fait partie des champions, quoi. J'ai parlé à ma mère, je lui ai dit à ma mère, alors elle était pas très contente du tout, jusqu'aux premières payes et elle a vu que je touchais de l'argent sur ma passion, elle a vu que c'était vraiment, qu'elle pouvait rien y faire, c'était vraiment ce que j'aimais faire, et ouais, comment je prenais du plaisir à le faire. Puis voilà, aujourd'hui, elle est assez fière de moi quand même.
Je connais enfin le salaire faramineux des meilleurs gamers français. Reste à savoir ce que ça représente réellement en termes de temps de travail.
Une journée d'un joueur Call of Duty, c'est banal. Pas vous mentir, on a la belle vie quand même. On peut dormir jusqu'à n'importe quelle heure. Après, moi, j'aime bien... je dors quand même assez tard. Je dors, je vais dire, vers 5h du matin. Après, je me réveille. J'essaie quand même de me réveiller vers midi pour pas, pour pas trop rater la journée. Ça dépend des fois. Quand il y a ma copine, je sors. Sachant qu'on commence l'entraînement vers 19h, je sors le matin, enfin, à partir de midi avec ma copine. Ça dépend, manger au resto ou voilà, faire du shopping. Après, ben, je mange, je regarde un peu la télé, je chill un peu. Voilà, je parle avec mes potes sur Skype et puis voilà, tu te déconnectes, tu te concentres et. Et voilà, c'est que ton équipe et toi et l'entraînement, et puis c'est sérieux et ça faut se donner à fond, quoi. En général, c'est de 19h jusqu'à minuit, 1h du matin, ça dépend. Il y en a qui aiment bien faire du rab jusqu'à 3h du matin. Moi, j'aime bien, comme je suis le leader de l'équipe, et c'est moi qui donne un peu les consignes tactiques, etc. Donc, je regarde beaucoup les rediffusions pour voir est-ce qu'on a fait des erreurs ou ce qu'on peut améliorer. Et ensuite, je vais me mettre au lit, bon, regarder un film, et puis je m'endors, il est déjà 5h, et voilà. Le fait que ça devienne mon métier, ça a changé ma manière de jouer considérablement. C'est-à-dire qu'avant, je jouais vraiment pour le fun. Maintenant, c'est tout le temps dans la performance. C'est devenu mon métier, quoi. Et quelques fois, on en a un peu marre de jouer, quoi. C'est bizarre à dire, mais ouais, quelques fois, genre, regarder la télé, ça fait vraiment du bien. Et se couper de jeux vidéo pendant un jour, voire deux, ça fait vraiment plaisir. Et on ne sait pas encore vraiment c'est quoi la limite pour un joueur. Je vais être une des premières expériences, je pense. Et la limite vient comme quand tu commences à plus avoir l'envie, à perdre un peu de réflexes ou à être dépassé individuellement. Et puis c'est là que je pense que c'est fini, quoi.
Bonsoir, ça c'est pour commander s'il vous plaît.
21h. Ma journée s'achève et celle des gamers commence.
Une pizza margherita, normal.
Tapez deux, Yana, tapez deux.
Ce sera tout.
Je prends tapez deux.
Chacun d'eux est assis devant un écran. Casque aux oreilles.
Quelqu'un garde le train ? Super, je peux bloquer ton garde, Gotas, si tu veux.
Minel,
il est mort, lui.
Ils vont jouer pendant au moins 5 heures d'affilée.
Train 2, ça pêche. Un qui pêche le fond, mort. Super, les gars.
Nice.
On se refait avec ce point.
Ils ne peuvent même pas lever la tête pour me saluer.
Ah, je peux pas, ils sont deux dedans encore.
Je pinch.
Je viens de comprendre quelque chose de désespérant et qui me ferme pour toujours la carrière de gamer professionnel. Quand on gagne sa vie en jouant, ce n'est plus du jeu.
Putain, je me suis déchiré, j'en peux plus.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre avec Payer pour jouer, un reportage d'Adila Benedjaïzou réalisé par Eric Lancien et Marie Placet avec un coup de main de Cécile Lafont. C'est l'ouverture d'une semaine intitulée Festival Estival, une sorte de best-of ou de florilège des Pieds sur Terre pour ouvrir vos vacances ou pas. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre. Céline Autin, c'est notre stagiaire. Merci à Fabien Devide, alias Néo, de la team Vitality. N'hésitez pas à podcaster notre émission si ce n'est pas déjà fait. Et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Nous avons une page Facebook et un compte Twitter qui attendent vos réactions avec impatience. Ha ha ha!